VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes le 30 septembre 2015. Eric Manilakiza et Nathalie Barge pour développer les points de l'actualité. À la une ce soir, Nathalie.
Flambée de violence à Bangui, l'experte indépendante de l'ONU sur la Centrafrique, Marie-Thérèse Keïta Bokoum, dit craindre une guerre civile. Et suite à son départ précipité de New York et son escale au Cameroun, la présidente Catherine Samba-Panza est arrivée à Bangui.
Je ne peux que remercier très fortement mon homologue du Cameroun et demander de continuer à nous accompagner dans ces moments difficiles.
Burkina Faso, l'armée loyaliste a repris le contrôle de la situation sur la caserne du RSP, le régiment de sécurité sociale.
Burkina Faso, le gouvernement ivoirien indemnise les victimes de l'ancienne crise post-électorale.
Ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau.
Maria Toukoné, la responsable de l'opération.
Et Syrie frappe, première frappe aérienne russe en coopération avec l'armée syrienne.
Une première à la haie, un djihadiste malien jugé devant la CPI.
7 morts et 50 blessés en Chine dans des explosions provoquées par des colis piégés.
Et dans 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Centrafrique, des barricades érigées par des manifestants ce week-end à Bangui ont été levées aujourd'hui. Les manifestants ont exigé la démission de la présidente Catherine Samba-Panza. Le point sur la situation avec Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui.
Les tirs ont été plus intenses dans les quartiers nord. Plusieurs accrochages ont été signalés entre les soldats de la MINUSCA et des hommes armés difficiles à repérer. Les casques bleus appuyés par un hélicoptère de combat de la Sangari sont repoussés violemment à chaque occasion ces raids. Situation qui vient augmenter le nombre des victimes car on déplore des morts et des blessés par balles dans certains quartiers. Jusqu'en début de soirée, la situation était encore volatile et la tension loin de chuter. Dans la nuit de mardi à mercredi, les nouveaux affrontements opposent aux hommes armés de PK5 aux anti-Balaka dans le 5e arrondissement ont fait de nouvelles victimes et d'énormes dégâts matériels. Sur le terrain, les pillages se sont poursuivis toute la nuit et même ce matin dans les locaux de certaines organisations humanitaires. La plupart des voies sont libérées, mais la circulation n'a pas encore repris. Le grand rassemblement de la société civile prévu aujourd'hui, place des martyrs, a été reporté pour éviter des débordements selon les organisateurs. Ces violences à Bangui ont ravivé des tensions dans certaines régions du pays. À Bombari, 3 personnes ont été tuées mardi, alors qu'à Kagabandoro, plusieurs milliers de personnes ont fui leurs habitations pour se réfugier à la base de la MINUSCA. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Les récents événements de Bangui ont contraint la présidente centrafricaine à interrompre sa participation à l'Assemblée générale de l'ONU. En route pour Bangui, Madame Samba-Panza s'en est expliquée lors d'une escale au Cameroun.
Il s'agissait d'une réunion particulièrement importante à laquelle tous les partenaires techniques et financiers devaient prendre part pour nous accompagner. Malheureusement, à partir d'un fait divers, nous avons connu les événements dramatiques qui se sont passés à Bangui. En tant que chef de l'État, il était normal que je raccourcisse mon séjour et que je revienne, reprendre les choses en main, appeler les Centrafricains au calme et essayer surtout de recoller la cohésion sociale qui a été mise à mal à partir de cet événement. Malheureux. Le Cameroun a effectivement toujours été à nos côtés, ne serait-ce que pour nous aider sur le corridor Bangui-Douala, ne serait-ce que pour assurer la sécurité de la République centrafricaine à travers la mise à disposition d'une importante troupe camerounaise et puis surtout à travers un appui conséquent pour nous accompagner dans le processus électoral. Je ne peux que remercier très fortement mon homologue du Cameroun et demander de continuer à nous accompagner dans ces moments difficiles.
La présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza au micro de notre correspondant à Yaoundé, Edwin Moki-Kinzeka.
Il faut ajouter, Nathalie, que le président du Parlement en Centrafrique vient de convoquer les députés pour ce jeudi et ce pour statuer sur les différentes revendications exprimées par la société civile et la population. Et au Burkina Faso, le président Michel Kafando était attendu au camp Nabakoum 2 pour y rencontrer les militaires qui ont monté l'assaut contre les ex-putschistes de la garde présidentielle. dont le chef Gilbert Diendéré s'est réfugié dans une ambassade. Le point avec notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogou.
Oui, actuellement, je me retrouve au camp Nabakoumdé, ce fameux camp qui appartenait à l'ex-RST et qui a été pris d'assaut hier par les forces loyalistes. Donc, nous sommes venus en visite avec le président de la transition qui a rencontré l'état-major général de l'armée, qui a rencontré les jeunes comme, et les a appelés les boys, comme lui, il a dit que c'est un terme américain qu'il utilise. Les boys qui ont eu le cœur, qui ont eu de l'amour pour ce pays. Et pour cela, lui, il tenait à venir sur les lieux même, ou du moins, comme disent les militaires, il est venu sur le théâtre des opérations, rencontrer ceux qui ont fait l'assaut et qui ont libéré le camp Nabakoum 2 et qui, du coup, ont libéré le Burkina Faso du RSP. Information très importante donnée par le président du Faso, l'assaut d'hier n'a fait aucune victime, contrairement à ce que les gens disent.
A-t-on des nouvelles du chef des putschistes, le général Diendéré?
Oui, le gouvernement a fait un communiqué dans lequel il est ressorti que le général Diendéré est précisément dans une représentation diplomatique au Burkina. Mais par nos propres recherches, on peut dire que le général Diendéré se trouve chez les nonces apostoliques au Burkina, c'est-à-dire l'ambassade du Vatican au Burkina.
Comparution ce mercredi devant la Cour pénale internationale d'un djihadiste malien soupçonné d'avoir dirigé la destruction de mausolées à Tombouctou en 2012. Claire Morin-Gibourg.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste à comparaître devant la CPI. Le premier suspect arrêté et poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Doté d'une épaisse chevelure frisée, d'une barbe et de lunettes rectangulaires, le suspect, habillé d'un costume bleu foncé très classique, a préféré s'adresser en arabe à la cour. Mon nom est Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, je suis de la tribu Touareg Al-Ansar, je suis né il y a environ 40 ans, a-t-il dit au juge. Selon l'accusation, M. Al-Mahdi était un des chefs d'Ansardine, un groupe islamiste radical associé à ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il est accusé d'avoir dirigé la destruction de 10 édifices religieux dans la vieille ville de Tombouctou, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. La CPI avait ouvert en 2013 une enquête sur les exactions commises au Mali par les groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. L'audience de confirmation des charges a été fixée au 18 janvier, étape de la procédure durant laquelle la procureure doit convaincre les juges que son dossier est assez solide pour mener à un procès.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, première frappe aérienne russe en Syrie. Le Sénat russe a donné son feu vert très tôt ce matin. Les frappes semblent avoir été menées dans les environs de Homs. Salwa Jafari pour les détails.
L'intervention russe est loin d'être une surprise. Les intentions de Vladimir Poutine étaient claires depuis longtemps. Il ne lui manquait qu'une demande de Bachar al-Assad et un feu vert de son Sénat. Quelques heures à peine après l'avoir obtenu, les forces aériennes ont fait leur entrée dans l'espace syrien. On parle de frappes réussies. Les Russes disent avoir détruit des équipements militaires et des stocks d'armes et de munitions du groupe État islamique dans la région de Homs. La question qui se pose néanmoins, l'État islamique sera-t-il le seul dans la ligne de mire ? Pavel Felgenauer, analyste militaire, explique.
Il est fort possible que les forces de l'opposition syrienne, surtout la partie islamiste comme le front al-Nusra, proche d'Al-Qaïda, soient ciblées.
Cet engagement militaire ne concerne en tout cas que des frappes aériennes, excluant ainsi, pour l'instant, l'engagement de troupes au sol. Cette accélération de l'engagement de Moscou dans le dossier syrien s'inscrit sur fond de bras de fer entre Barack Obama et son homologue russe sur le sort à réserver à Bachar al-Assad. Washington le qualifie de tyran. Moscou voit en lui un rempart contre les djihadistes du groupe État islamique.
7 personnes ont été tuées et 50 blessées ce mercredi dans le sud de la Chine dans des explosions provoquées par des colis piégés, indiquent les médias nationaux, faisant état de 15 déflagrations dans différents lieux publics. Selon la police de Liushang, dans la région de Xiangxi, des explosifs dissimulés dans des colis postaux sont à l'origine des déflagrations. Plusieurs bâtiments de la ville ont été touchés, dont une prison, un marché, un grand magasin, une gare et un hôpital, rapporte l'AFP.
Et le géant de l'automobile Volkswagen procède actuellement à un rappel de 11 millions de voitures dont il a truqué les moteurs.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Un coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est Lamine Teko qui vous est présenté ce soir par Anastasie Tudier.
Après l'extension du port autonome d'Abidjan, le groupe de BTP chinois CHEC développera et aménagera le PK24, la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. L'accord entre l'État ivoirien et CHEC porte sur 200 hectares et sera signé dans les prochaines semaines pour un montant de 60 milliards de francs CFA d'investissement de la part de CHEC, d'après les autorités du groupe. Le PK24 devrait notamment accueillir la nouvelle brasserie franco-hollandaise Brassivoire, ainsi que des industriels chinois. IPAE, le fonds d'investissement de Jean-Michel Severino, l'ancien président de l'AFD, a acquis 35% du capital d'Enval Laboratoire, PME ivoirienne de 40 employés fondée en 2012 et spécialisée dans les analyses physico-chimiques et microbiologiques. Cette opération devrait notamment permettre de doubler le nombre d'employés de la société. Au Ghana, IPAE est participant minoritaire de PEG Africa, une PME qui distribue des panneaux solaires depuis 2013 et compte 87 employés. Le rapport mondial sur la compétitivité 2015-2016 vient de paraître. La Suisse est pour la 7e fois consécutive le premier pays, devant Singapour et les USA. Les trois premiers pays du top 10 africain sont l'île Maurice, 46e mondial devant l'Afrique du Sud, 49e mondial et le Rwanda, 58e mondial. La Côte d'Ivoire, seul pays francophone du top 10, arrive en 8e place.
Merci Anastasie pour la Minute Éco.
C'est votre moment des sports. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric.
D'abord, Afrobasket 2015 à Yaoundé repose ce mercredi pour les dames.
Égypte, Cameroun, Mozambique, Nigeria, Gabon, Angola et Sénégal, Mali. Telles sont les affiches des quarts de finale demain du championnat d'Afrique des nations féminins qui se déroule à Yaoundé. Compte rendu de l'envoyé spécial de VOA Afrique au Cameroun, Amdinsi.
Après 5 journées âprement disputées, on connaît les 8 équipes qualifiées pour les quarts de finale de la grande messe du basketball continental. Il s'agit du Cameroun, le Mali, le Mozambique, le Gabon, l'Angola, le Nigeria, le Sénégal et l'Égypte. Retenez que le Cameroun est la seule équipe invaincue de cette première phase. Les Lions indomptables ont réalisé un parcours sans faute en balayant tout sur leur passage. Après le premier tour, place au quart de finale. Il faut dire que les amateurs de la balle orange seront gâtés car ils auront droit à des affiches de rêve lors de ces quarts de finale prévus ce jeudi au Palais des Sports de Yaoundé avec le derby de l'Afrique de l'Ouest qui va mettre aux prises le Sénégal et le Mali. L'Égypte ira à l'assaut du Cameroun. Le Gabon affrontera l'Angola. Le Mozambique fera face au Nigeria. Des rencontres palpitantes en perspective. Amédine Yaoundé, VO Afrique.
Et Nico, la Ligue des Champions, suite de la deuxième journée.
À suivre les matchs Astana-Galatasaray, le Benfica en déplacement chez l'Atlético à Madrid, Manchester City qui se déplace en Allemagne contre Mönchengladbach, le choc Juventus de Turin contre le FC Séville, le Paris Saint-Germain en déplacement chez le Shakhtar Donetsk, le Real de Madrid ira à Malmö en Suède, Manchester United qui accueille les Allemands de Wolfsburg, enfin le CSKA à Moscou qui reçoit le PSV Eindhoven.
Enfin, regard sur la NBA, les malheurs de Derrick Rose persistent, Nico.
Eh oui, puisque le joueur vedette des Chicago Bulls a été blessé au visage lors du premier entraînement de son équipe, il va subir une intervention chirurgicale, c'est ce qu'a annoncé la franchise NBA. Derrick Rose a reçu un coup de coude dans le visage durant l'entraînement. Il a été transporté à l'hôpital où il a été diagnostiqué d'une fracture du plancher orbital sur le côté gauche, ont annoncé les Bulls dans un communiqué. Élu meilleur joueur de la NBA en 2011, Derrick Rose, 26 ans, a vu depuis sa carrière compromise par une série de blessures, notamment à un genou, avec une saison 2012-2013 blanche et seulement 10 matchs disputés pour la saison 2013-2014.
Merci Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge et Eric Manilakiza en votre compagnie. Place au dossier du jour, Nathalie.
Au Burkina Faso, la crise semble se dénouer après que l'armée loyaliste ait repris ce mercredi le contrôle de la situation dans la capitale au lendemain de son assaut éclair contre la caserne des ex-putschistes de la garde présidentielle. À Ouagadougou, c'est un soulagement, mais la population semble toujours inquiète. Pour une analyse, Eric Manirakiza, vous avez joint dans la capitale burkinabé Kidoulaye Corentin, directeur du Centre de recherche géopolitique et des études stratégiques.
Ici, à Ouagadougou, tout le monde estime que c'est effectivement le dénouement de la nuit. C'est un grand sentiment de soulagement pour les Burkinabés. Je ne dis pas de joie parce que finalement, il n'y a pas eu de grands éclats de joie à Ouagadougou, mais un sentiment de soulagement tellement les gens étaient fatigués de cette crise. Mais aussi un grand sentiment d'achille finalement parce que voilà des troupes d'élite, entre guillemets, qui auraient pu servir à la nation, qui auraient pu positivement épauler les grandes transformations qui sont en train de se faire actuellement au Burkina Faso, s'ils avaient un tant soit peu écouté les conseils, les appels, les injonctions que lui adressait le peuple, que lui adressaient les autres. Et vraiment, c'était tout à fait dommage.
Le RSP a été dissous par un décret présidentiel. Il y aura un redéploiement. Pensez-vous si la réintégration des éléments du RSP dans d'autres unités de l'armée va être facile pour s'assurer de la cohésion?
Les chiffres cités le plus souvent sont autour de 1300 personnes. J'ai une armée de 8000 hommes. Le redéploiement peut se faire parce qu'il ne faut pas oublier que dans les autres corps de l'armée, vous avez les mêmes compétences qui sont là, qui sont déployés. Et donc, je pense que les éléments du RSP, chacun selon sa compétence, pourra sans doute trouver une place dans l'armée burkinabé. C'est vrai qu'une de leurs revendications était qu'ils continuent à travailler ensemble, toujours comme un corps.
Le coup d'État avorté a interrompu le processus électoral. Est-ce possible d'aller aux élections avant la fin de l'année? Quel travail devrait faire le gouvernement de transition pour assainir l'environnement?
La plupart des gens avec qui moi j'ai échangé estiment qu'il est impératif que le Burkina Faso puisse aller de l'avant et s'ancrer définitivement dans la démocratie. Il y a une possibilité d'aller aux élections, il y a une possibilité d'organiser ces élections avant la fin de l'année. Ceci dépendra évidemment de la volonté des acteurs politiques et de la volonté des forces vives de la nation.
Kidoulaye Corentin, directeur du Centre de recherche géopolitique et des études stratégiques, joint à Ouagadougou.
Et en Côte d'Ivoire, plus d'un millier de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont obtenu réparation dans le cadre d'un processus d'indemnisation débuté il y a deux mois. Et l'opération connaît un engouement certain. Jean-Roger Billon a joint Maria Toukoné, directrice générale du Programme national de cohésion sociale en charge de l'indemnisation des victimes.
Au titre de l'indemnisation, nous avons commencé avec 4500 personnes et aujourd'hui, l'indemnisation, je dirais, se porte bien parce que près du tiers a reçu réparation. Près du tiers des victimes a reçu réparation.
Est-ce qu'on peut évaluer ce qui a été donné à ces gens qui ont subi les effets de la guerre?
Grosso modo, il y a plusieurs types de préjudices, mais nous avons commencé par les décès, c'est-à-dire atteinte à la vie, et puis atteinte à l'intégrité physique, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont subi des blessures physiques et morales. Pour les personnes qui ont perdu la la vie, leur famille, en tout cas leur ayant droit, reçoit 1 million de francs CFA par personne. C'est par personne décédée. Et puis pour les personnes blessées, c'est la prise en charge médicale et psychologique totale et intégrale jusqu'à guérison.
Alors il y avait deux camps opposés lors de la crise post-électorale. Est-ce que tous les camps ont été pris en compte, madame?
Nous faisons les réparations sans tenir compte de camps. La mort n'a pas de couleur, la victime n'a pas de couleur. Qu'on soit de tel bord politique ou de tel autre bord politique, ce n'est pas ça. Les victimes ne sont pas répertoriées en fonction de leur bord politique, mais en fonction des cas de décès, en fonction des cas de blessures, en fonction des cas de pillage, etc. etc. Et donc, toutes les personnes qui ont perdu la vie en Côte d'Ivoire, civiles comme militaires, reçoivent réparation. Leurs ayants droit reçoivent réparation, sans tenir compte de la religion, ni du parti politique, ni de l'appartenance ethnique.
Alors, jusqu'à quelle période cette indemnisation va s'étendre?
Le processus de réparation a commencé, il va continuer jusqu'à ce que toutes les victimes reçoivent réparation sur le territoire national et même au-delà s'il y en a qui sont à l'extérieur.
Pensez-vous que cette opération va contribuer à l'apaisement à un mois de l'élection présidentielle?
Fortement contribuer à l'apaisement et ça a déjà commencé parce que des gens qui n'avaient aucun soutien, qui n'avaient aucun pilier, qui voient maintenant qu'ils sont regardés, l'expression en Afrique, regardés, on me regarde, regardés par l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'ils reçoivent compassion de l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau, c'est-à-dire par le président. Ils reçoivent compassion également de toute la nation, je pense que ça soulage les douleurs. Et aujourd'hui, il y a un engouement autour du processus de réparation des préjudices dus aux victimes qui fait que nous ne pouvons que saluer l'opération et nous espérons que ceux qui étaient encore réticents, qui avaient lancé des mots d'ordre demandant aux gens de ne pas s'inscrire, que ces personnes-là comprennent qu'il faut que tout le monde s'inscrive pour bénéficier du fonds spécial d'indemnisation pour les victimes. Parce que ça ne tient pas compte de camp, ça ne tient pas compte de couleur, ça ne tient pas compte de religion, ça ne tient pas compte de parti politique.
Maria Toukoné, directrice générale du programme ivoirien de cohésion sociale, était jointe à Abidjan.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est le premier djihadiste malien à comparaître devant la Cour pénale internationale à La Haye. Il est accusé de destruction de 9 mausolées d'une mosquée à Tombouctou. Le début de l'audience de confirmation des charges est fixé au 18 janvier. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Aladji Touré, un habitant de Tombouctou.
Tout simplement, nous éprouvons vraiment un sentiment de soulagement. À Tombouctou, tous les Tombouctiens sont vraiment contents que du stade d'accusé et de prisonnier au Niger, ce djihadiste malien a été envoyé à La Haye pour pratiquement l'ouverture de son jugement aujourd'hui. Les Tombouctiens sont vraiment contents parce que nous avons tous regardé France 24. Même si on ne nous a pas montré les images, mais nous avons vu en fil rouge l'ouverture de son procès au tribunal pénal de La Haye aux Pays-Bas. Nous sommes vraiment contents et nous pensons aussi que ça ne va pas se limiter uniquement à Abu Turab. Les autres sont dans la nature, ils sont présentement à Tombouctou, aux alentours de Tombouctou. Et nous pensons que les investigations vont être poussées pour appréhender ces djihadistes, pour que chacun réponde pratiquement de ces faits et gestes posés à Tombouctou au moment de l'occupation.
Ils n'avaient pas seulement détruit que des mausolées et mosquées, ils avaient lapidé des femmes, ils avaient coupé des mains.
Nous avons vécu ça à Tombouctou, effectivement, mais pratiquement, les gens qui avaient coupé les mains, les gens qui avaient détruit les mausolées, les gens qui ont profané même des tombes avec nous à Tombouctou, ils sont connus. Les Tombouctiens les connaissent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons que ces gens bénéficient pratiquement de certaines populations et personnes et mots. Les Tombouctiens ont vraiment peur parce que ces gens sont parmi nous à Tombouctou présentement.
Et ceux qui avaient été arrêtés par l'État malien, certains d'entre eux aussi ont été relâchés, notamment ceux qui avaient contribué.
Ceux qui avaient été arrêtés ont été pratiquement relâchés lors des fameux accords d'Alger parce que ces gens ont mis sur la table tout simplement leur libération immédiate. Ils ont été libérés. Libéré à partir pratiquement de Bamako, acheminé par des avions de l'aménagement à Gao, à Tombouctou, un peu partout en République du Mali, et personne ne trouve quelque chose à dire.
Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir la paix sans la justice?
Non, il n'y a pas de paix sans justice. Les gens qui sont coupables des faits, et qui ont vu de tout le monde, si ces mêmes gens sont arrêtés et libérés encore, ça nous pose des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? L'État malien a les pieds et les mains liés.
C'était Aladji Touré, un habitant de Tombouctou au Mali.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York, à l'heure où les crises se répètent en Afrique, notamment en Centrafrique et au Burkina Faso. Une assemblée qui a accueilli le pape François en marge de son périple américain. Cette assemblée de l'ONU sera-t-elle encore une fois beaucoup de discours et peu de décisions, comme le disent certains? Et que pensez-vous aussi de la récente visite du pape aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU, en direct de New York.
Et en RDC, la démission du gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, du parti au pouvoir, fait encore des vagues, bien que le PPRD, parti du président Joseph Kabila, parle d'un non-événement. Pour une réaction, Eddie Sango a joint le président de l'Assemblée nationale, Gabriel Yunguwa Mwakwa Kumwanza. Suivez.
À partir du moment où certains commencent même à penser à tripatrier, à revoir la Constitution, là, ça nous inquiète. D'abord, je lui rends hommage. En tant que membre du G7, je lui rends un vibrant hommage parce qu'il a démontré combien il est un homme de parole, un homme sérieux, parce que c'est vraiment le même point de vue du G7. Deuxièmement, effectivement, il a constaté que dans les cas de la majorité, il n'y a pas l'honnêteté, une sorte de malice, mensonge et hypocrisie. Voilà pourquoi il a trouvé que ce n'était pas un milieu où il pouvait rester.
Monsieur Moïse est resté ambigu quant à une probable candidature à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est pour se présenter ou pour confirmer une candidature à l'élection à la présidentielle?
Non, pas nécessairement. Concrètement, nous voulons dire au niveau du G7 que jamais la majorité ne s'est prononcée pour l'alternance, c'est-à-dire le changement des hommes qui sont en place, remplacés par les autres et par le système électoral. Par contre, il se trouve des hommes divers, des hommes providentiels.
Vous accusez les autres membres du pouvoir d'entretenir un flou quant aux élections. Est-ce que ce n'est pas le cas avec vous? Quelle est votre position par rapport à ces élections? Est-ce que vous ne vous positionnez pas vous-même déjà pour être candidat? Quand je dis vous-même, c'est-à-dire est-ce que vous avez un candidat pour le G7 à la prochaine élection?
Je pouvais avoir l'idée d'avoir un candidat. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est le respect de ce que notre Constitution, que nous avons nous-mêmes adopté tous, c'est ça que nous voulons. Nous voulons qu'on respecte cette Constitution, qu'il y ait, qu'on accepte qu'il y ait l'alternance politique. Ce n'est pas parce que nous avons un candidat à présenter, encore que c'est notre droit. Mais ce que nous voulons est que les règles du jeu soient respectées.
Gabriel Kyunguwa Kumwanza, président de l'Assemblée province du Katanga, en RDC.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La mise en onde était assurée par Lionel Gaïma. À la présentation, c'était Nathalie Barge et Eric Manirakiza.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. Restez avec nous pour des infos dans un instant.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.